Il est 18h, vous êtes sur Europe 1.
Il y a des faux négatifs, mais c'est mieux que de ne pas se tester du tout. C'est utile quand on va dans une collectivité. C'est utile quand on part en voyage.
Et oui, d'ici quelques semaines, une pharmacie sur deux proposera des tests antigéniques très utiles avant de rendre visite à une personne âgée, par exemple, ou bien de prendre un avion.
Des tests que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes va proposer à 8 millions d'habitants de son territoire avant Noël. Laurent Wauquiez répond ce soir au ministre de la Santé, Olivier Véran, qui parle d'un effet d'annonce.
Les sportifs reçus aujourd'hui à l'Élysée, pas de calendrier, mais Emmanuel Macron promet de sortir le chéquier. L'État va dégager une enveloppe de 400 millions d'euros, on vous détaille tout dans un instant.
Quand le flou crée des remous, passe d'armes cet après-midi à l'Assemblée nationale avant l'examen de la proposition de loi sur la sécurité globale.
Et puis, des câbles inversés, ça paraît incroyable. Cette inversion est à l'origine de l'échec la nuit dernière du lancement de la fusée Vega. La Bourse de Paris a clôturé ce soir en hausse de 0,21% à 5 483 points.
Elle est plutôt bien câblée. Anissa est avec nous ce soir en plateau. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Le ciel se couvre demain.
Oui, alors à l'ouest uniquement et sur la Bretagne uniquement, parce que partout ailleurs, demain, il va faire très beau. Les températures grimpent encore. Vous allez voir qu'on va atteindre des records. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les tests antigéniques, nouvelle arme anti-Covid, débarquent désormais massivement dans vos pharmacies.
Déployés pour soulager et désengorger les laboratoires en complément des fameux tests PCR.
Alors c'est vrai qu'ils sont un peu moins fiables, mais néanmoins très utiles, Ève Roger, en particulier dans certaines situations.
Oui, très utile et très fiable si vous avez des symptômes, toux, fièvre ou courbature. Il suffit d'aller chez son médecin ou en pharmacie et vous avez un résultat en une vingtaine de minutes seulement. Si le test est positif, vous pouvez être sûr et certain d'avoir attrapé le virus. En revanche, si vous n'avez pas de symptômes et que le test est négatif, il y a un risque sur deux ou même trois que vous soyez quand même infecté. Donc prudence. Mais pour Philippe Besset, le président de la Fédération des pharmaciens, ce test reste quand même utile malgré cette faiblesse.
Il y a des faux négatifs, mais c'est mieux que de ne pas se tester du tout. C'est utile quand on va dans une collectivité. C'est utile quand on part en voyage. Un individu asymptomatique qui veut prendre l'avion, il aura depuis son officine un résultat négatif avec une attestation venant de SIDEP qui lui permettra de prendre l'avion.
Alors au ministère de la Santé, on précise quand même qu'il faut se renseigner auprès des compagnies aériennes, donc vous l'avez compris, si vous devez prendre l'avion, allez voir votre grand-mère à son domicile ou dans son EHPAD. Les tests antigéniques jouent un rôle de filtre, d'autant qu'ils vont monter en puissance. Demain, vous pourrez même le faire chez votre dentiste ou chez le kiné, mais à une restriction près. Attention, si vous êtes cas contact, seul le test PCR réalisé en laboratoire fait foi.
Ève Roger, on revient vers vous dans un instant. Des tests antigéniques massifs, c'est ce que propose justement Laurent Wauquiez, donc le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, il annonce qu'il va permettre à 8 millions d'habitants de son territoire, avant Noël, de se faire dépister. Jean-Luc Boujon, vous êtes en direct de Lyon avec sans doute aussi une petite arrière-pensée politique.
Eh bien oui, parce que les élections régionales, c'est au printemps prochain. Mars ou juin, on ne sait pas encore. Et Laurent Wauquiez, même s'il dit partout qu'il serait indécent de parler de cela en ce moment, y songe forcément. N'en parlez jamais, y pensez toujours. Cela pourrait être la devise de l'ancien président des Républicains, qui espère bien se faire réélire. Du coup, sa stratégie, eh bien, c'est d'apparaître comme le champion national de la lutte contre le Covid. Il y a quelques jours, il faisait la promotion des purificateurs d'air qu'il va faire installer dans le lycée ou dans les cantines, comme en Allemagne. Aujourd'hui, c'est donc une campagne de tests massif organisé pour tous les habitants de la région entre le 16 et le 23 décembre prochain pour éviter que Noël soit un moment de grande contamination, explique Laurent Wauquiez.
Dans notre pays à ce stade, et pour des raisons que je ne comprends pas, personne ne passe le pas. Nous, la moindre initiative dans notre région qui peut servir à protéger, on veut le prendre. Donc on a décidé de précommander massivement des tests. L'objectif est de permettre de tester le plus d'habitants de notre région sur un intervalle très court. Plus on teste, plus on détecte le virus, plus on peut empêcher sa circulation.
Voilà, vous avez entendu la pique au gouvernement qui, selon Laurent Wauquiez, resterait inactif sur ce terrain. Ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a ironisé sur cette initiative, affirmant se méfier des effets d'annonce du président d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui répond ce soir.
Je me souviens, Olivier Véran, il y a 8 mois, disait les masques, c'est inutile. Ben, heureusement qu'à l'époque, on ne l'a pas écouté et que nous, on avait enclenché la production de masques et la distribution. Donc je pense qu'aujourd'hui, un ministre de la Santé, plutôt que de faire des polémiques, il a plutôt intérêt à travailler avec tous ceux qui essayent de se bouger.
Voilà, vous l'entendez, la crise sanitaire n'empêche pas la guéguerre politique de se poursuivre.
Jean-Luc Boujon, en direct de Lyon. Merci Jean-Luc. Ève Roger, vous êtes toujours avec nous. Guéguerre politique, dites à l'instant Jean-Luc Boujon. Qu'est-ce que le ministre de la Santé reproche exactement, Ève, à Laurent Wauquiez ?
Eh bien, au-delà de l'effet d'annonce très bien décrit par Jean-Luc Bougeon, surtout, il lui reproche de ne pas anticiper le service après-vente. Je m'explique, après une campagne massive comme celle-ci, il va y avoir forcément beaucoup de cas positifs, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes où la deuxième vague est puissante. Ces cas positifs, il faudra les isoler pour casser les chaînes de contamination. Pas sûr, estime Olivier Véran, que Laurent Wauquiez ait prévu la logistique pour encadrer et accompagner l'isolement des malades dans sa région, surtout à la veille de Noël. Et si ce n'est pas fait, cette campagne de test ne servirait à rien.
Eh bien, merci pour ces précisions. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1.
Le gouvernement qui est par ailleurs dans les starting blocks, il se prépare à une campagne de vaccination massive contre la Covid dès le mois de janvier.
À condition, bien évidemment, que l'un de ces vaccins soit au préalable validé par les autorités de santé européennes et nationales. 1,5 milliard d'euros spécialement budgétés pour ça. Plusieurs centaines de millions de doses ont été réservées au niveau européen auprès des différents laboratoires.
Et on en parlera dans quelques secondes avec notre invité exceptionnel, Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, qui vient donc d'annoncer un vaccin efficace à plus de 94%.
La perspective d'une réouverture avant les fêtes s'éloigne pour les cafés, les bars et les restaurants. Ce devrait être plutôt mi-janvier.
Oui, pas de décision en revanche pour les commerces non essentiels. La date du 1er décembre, au plus tôt, est toujours sur la table.
Oui, même si le porte-parole du gouvernement laisse entendre que cette réouverture pourrait intervenir un peu plus tôt. Mais là encore, c'est la situation sanitaire qui prévaudra. Dès vendredi de cette semaine, en revanche, les fleuristes auront le droit de vendre des sapins de Noël, mais uniquement à l'extérieur, sur le trottoir, devant leur magasin.
La SNCF, maintenant, assure qu'elle sera prête pour les fêtes de fin d'année. C'est ce qu'a dit ce matin sur Europe 1 son PDG, Jean-Pierre Farandou, qui n'attend plus que le go sanitaire du gouvernement.
Et sans attendre, il conseille aux Français de réserver. La SNCF promet de rembourser gratuitement ou d'échanger les billets en cas d'impossibilité de se déplacer. On y reviendra dans notre journal de 19h.
On le disait également, Isabelle, le monde du sport avait rendez-vous aujourd'hui avec Emmanuel Macron.
Visioconférence avec une vingtaine de représentants, les sportifs professionnels et amateurs très pénalisés, bien sûr, eux aussi par ce deuxième confinement et qui réclament un plan d'urgence. Le chef de l'État les a entendus. Il débloque 400 millions d'euros. 400 millions, pourquoi faire précisément, Simon Rubin ?
Alors, sur ces 400 millions d'euros, déjà, 200 étaient de fait prévus dans le projet de loi de finances. Alors concrètement, parlons d'abord des mesures pour le monde amateur. Lancement dès 2021 du pass sport. Ce sera l'État qui prendra en charge l'achat de licences sportives. Reste à savoir quel public sera visé exactement par la mesure qui sera financée à hauteur de 100 millions d'euros. Par ailleurs, 5000 postes de services civiques seront envoyés dans les clubs pour notamment compenser la perte de bénévoles. Ça représente à peu près 20 millions d'euros. L'Élysée qui annonce aussi une reconduction du fonds d'urgence pour le sport, augmenté de 15 millions d'euros. Donc ça, c'est pour les amateurs et pour les professionnels. Exonération de charges sociales pour octobre, novembre, décembre, sans critère de baisse du chiffre d'affaires. Mesure très appréciée par les présidents de clubs. Et puis surtout, un fonds de compensation pour les pertes en billetterie. Chaque club sera indemnisé par l'État au cas par cas, en fonction de l'importance de la billetterie dans le chiffre d'affaires habituel du club, un fonds qui pèse 110 millions d'euros.
Et alors, on sait que c'est compliqué, bien sûr, mais est-ce qu'on a quand même une date pour un éventuel retour à la normale ?
Alors, pour le coup, c'est effectivement beaucoup plus flou, et c'est normal puisque tout dépend de l'évolution de l'épidémie, mais si la situation continue de s'améliorer du côté de l'Élysée, on veut relancer la machine et donc permettre à nouveau aux mineurs, au moins aux mineurs, de retourner en club sous le régime d'un nouveau protocole sanitaire. Ce retour en club pourrait avoir lieu dès le mois de décembre. En revanche, pour les professionnels, pas de public dans les stades avant 2021. Un point d'étape aura lieu début janvier et quoi qu'il arrive, ce retour du public se fera selon des jauges adaptées à chaque enceinte.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Et on en parlera tout à l'heure dans le Club des Idées à partir de 19h15, car c'est vrai que derrière le sport, la compétition, les champions, il y a aussi le vecteur du lien social. On le verra et on l'entendra, très important pour le socle de notre société, au-delà du sport d'ailleurs.
Europe 1, Julien Bugier.
18h09, vous restez avec nous à suivre dans votre journal la proposition de loi sur la sécurité globale. Est-elle liberticide ? Il y a débat à l'Assemblée nationale.
Et puis qui a mal branché les câbles ?
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal 18h10 avec Isabelle Millet. On en vient à cette proposition de loi sur la sécurité globale examinée en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale.
C'est un texte controversé qui comprend une série de mesures sécuritaires qui suscitent l'inquiétude des défenseurs des libertés, notamment le fameux article 24 qui propose l'encadrement très strict de la diffusion d'images de policiers et de gendarmes.
Et qui prévoit des peines de prison et des amendes pour tous ceux qui publieraient des vidéos ou des photos.
Les opposants voient dans cet article l'impossibilité de dénoncer de possibles dérives policières. En tout cas, Claudia Bertram, vous êtes à l'Assemblée où cette proposition de loi, avant même son examen, a donné lieu à quelques passes d'armes cet après-midi.
Oui, il va y avoir du débat, il va y avoir du sport, promettons à gauche. Socialistes, communistes ou encore insoumis sont vent debout contre ce texte et notamment, vous l'avez dit, l'article 24 qu'il juge liberticide. Le député PS, Boris Vallaud.
Elle me paraît présenter des risques bien trop grands. Est-ce que cette loi aurait permis de révéler les images de M. Benalla? Je ne le crois pas.
Et certains alliés de la majorité non plus ne sont pas à l'aise avec cet article 24, comme le Modem qui veut le supprimer, comme l'explique le député Erwan Balanon.
On est dans un état de droit où on est à visage découvert. Si les images sont utilisées de façon qui porte atteinte à la sécurité des policiers, oui, il faut travailler là-dessus, mais pas dans un dispositif qui retouche la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Alors face aux critiques, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a défendu ce texte de toute atteinte à la liberté de la presse ou d'informer dans l'hémicycle cet après-midi.
Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer, à diffuser? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer l'intervention de police? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Alors non.
Les députés sont sur le point de démarrer l'examen de ce texte. Discussion et débat qui devrait durer une semaine.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Dans l'actualité également ce soir, la fusée Vega de l'Agence spatiale européenne qui transportait deux satellites d'observation de la Terre a dévié de sa trajectoire 8 minutes seulement après son décollage.
Et oui, c'était la nuit dernière et c'est un nouvel échec donc dont on connaît ce soir les raisons. Lors d'Autriche, il y a visiblement quelqu'un qui a inversé des câbles.
Oui, alors ça peut sembler difficile à croire, mais il y a eu un problème d'inversion des câbles au moment où la fusée a été fabriquée. Le patron d'Arianespace, Stéphane Israël, vient d'expliquer que des câbles ont été mal connectés sur l'étage supérieur de la fusée. Et c'est pour cette raison que la nuit dernière, la fusée a été perdue en vol. Tout avait bien commencé jusqu'à cet incident, 8 minutes après le décollage, au moment où doit s'allumer tout en haut le dernier moteur chargé d'ajuster la trajectoire. La fusée a alors dévié de sa trajectoire, elle est sortie des radars et puisque tout est automatisé, c'est impossible à rattraper. La fusée devait mettre en orbite 2 satellites à 700 km d'altitude, dont un satellite qui devait étudier les phénomènes électriques qui se déroulent au-dessus des orages. Le coût du projet, 115 millions d'euros. L'autre satellite a coûté, lui, 200 millions d'euros. Tout cela est évidemment perdu. Ce sont aussi 20 ans de travail qui sont anéantis pour les ingénieurs qui ont travaillé sur cette mission. Et puis c'est un coup dur pour les lanceurs européens. Vega est fabriquée en Italie. C'est la fusée la plus fine, la plus légère des fusées européennes. Et elle a déjà connu un autre échec il y a 1 an et demi. La fusée s'était alors cassée en 2 minutes après le décollage.
Merci beaucoup, Lord Autriche, pour ces précisions.
On n'aimerait pas être à la place de celui qui a inversé
Moi
les câbles. Ça doit chauffer dur ce soir chez le lanceur européen. Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres 18h30. Et le journal à 19h.